Je ne sais pas trop quoi dire après tout ça. En tout cas, il y a une chose que je relève dans ce que tu as dit, dans tout ce discours qui était magnifique, assez déprimant. Ça m'a vraiment foutu en l'air ma journée, et peut-être même les 2 prochaines semaines, car il y a énormément de points où je suis extrêmement d'accord, enfin, ce n'est même pas d'être d'accord, c'est des choses que moi je ressens aussi au niveau de la profession. Ce n'est pas vraiment un manque de solidarité, mais ce que tu dis, c'est effectivement il y a une fragilisation de notre milieu, que ce soit au niveau du spectacle, au niveau des compagnies, au niveau des comédiens. Et je ne dis pas que c'est normal de commencer un peu à penser à soi-même, mais quelque part, c'est ça que je ressens de plus en plus. Au sein même de ma compagnie, moi j'essaie de continuer à faire des spectacles en nombre, malgré la difficulté que c'est la difficulté de faire un spectacle avec 10 personnes, la difficulté que ça coûte, la difficulté ensuite pour les programmateurs, parce que voilà. Mais j'essaie de me battre pour continuer ça, parce que sinon, on voit bien dans les arts de la rue ou même au théâtre, c'est des solos, des duos, des trios, ce qui n'enlève pas la qualité de ces spectacles évidemment, mais. Comme on dit, c'est voilà, cette espèce de facilité, parce que c'est sur un mec sur scène, ben, ça fait plus gagner de fric que 10 mecs, 10 personnes. Et puis moi, ça reflète un peu, c'est un peu, on va dire, un truc, pas psychologique, mais on va dire intellectuel de ma part. Très petit, je ne suis pas très intello. Mais quelque part, c'est un peu ma façon de dire, non, j'ai envie de montrer par là que c'est encore possible, enfin, c'est possible de faire un spectacle avec du nombre. Ça reflète un peu ce que j'ai envie de donner à la société, c'est dire non, c'est solo, ça veut dire un peu quelque part, bah, pensez qu'à vous-même. Vous voyez, on s'en sort mieux tout seul. Et moi, j'ai envie de continuer donc à faire des spectacles avec plus de monde, avec du monde pour cette pensée-là. Je rebondis sur un autre truc aussi, parce que j'ai la chance et la malchance de vivre plusieurs fois en Italie, où c'était un désastre total culturel, pour ceux qui ne le savent pas, un désastre. Le Berlusconi est bien passé, et c'est un désastre. Il y a théâtralement un désastre. On parle de Castellucci, mais Castellucci, il cartonne en France. Et après coup, il revient en Italie, mais Emma Dante, Castellucci, ces gens-là, Pippo Delborno, ils ont été connus en France, pas dans leur pays. Et donc c'est un désastre. Au niveau de la rue, bon, c'est même pas la peine d'en parler. Malgré il y a quelques festivals dans le nord, du côté de Turin, mais le reste de l'Italie, c'est la fête de la saucisse. J'en ai fait. Et voilà, on est là pour amuser le public. On n'est pas du tout là. Dès qu'on fait un truc, un soupçon de grinçant ou un soupçon de deuxième degré, alors là, c'est... Oh là là. Non ci vogliamo. Ah, ya, ya, c'est intellectuale. Et il y a quelques années, ça m'avait marqué, et c'est ça dont j'ai peur qui arrive en France, c'est comme tu dis, les élites qui manquent de culture. Il y a eu un député qui s'est présenté, enfin qui se présente régulièrement, vu qu'en Italie, ça reste très longtemps, où il revendiquait dans son programme culturel qu'il ne lisait pas. C'était sa qualité. Il disait, moi, votez pour moi, moi, je ne lis pas de livres. Voilà. Pour dire aux gens, il n'y a rien de, quelle horreur, lire des livres, etc. Non, il revendiquait ça, il a été réélu. Hein. Il a dit, voilà, c'est mieux regarder la télé, regarder les filles en string pour, voilà, les choses, mais les bouquins, la culture, le théâtre, c'est mauvais. Et quelque part, cet état d'esprit de dire c'est mauvais le théâtre, c'est malsain. Ensuite, en plus, en Italie, donc effectivement, il n'y a pas un journal télévisé sans un moment du Vatican. Pas un journal. Hein. Je le regarde régulièrement avec ma femme. Et il n'y a pas un journal sans un moment où il Papa Benedetto, je ne sais plus comment il s'appelle, Francesco, va dire la sienne sur tel sujet de sujet. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que là-bas, il y a vraiment cette tournure, je le ressens, parce que je parle avec des gens, je fais quand même des spectacles là-bas de temps en temps, mais il y a quand même cet état d'esprit de présenter comme les artistes, c'est quand même pas des gens bien, bien, bien. Voilà. Ensuite, tu voulais, par rapport à la censure, J'irai pas dire que je me suis censuré sur les derniers spectacles, mais je ne dirai pas la vérité si je ne vous avoue pas que oui, j'y ai pensé. Et ce n'est pas une question de censure, c'est une question de lissage. J'avoue, je me suis lissé. J'avoue, j'ai juste j'ai cette faiblesse. Ouais. J'avoue, j'ai honte. J'ai honte, mais après, c'est comme ça a été dit, il y a cette réalité-là. J'ai eu la chance de faire deux spectacles sur le monde, enfin trois, mais deux notamment, les deux derniers, donc un avec 18 comédiens danseurs, complètement débiles, invendables. Mais malgré, on a eu de la chance, ça a bien vendu, ça a bien vendu. Et le dernier, donc Monstre d'Humanité, donc là, c'était les huit plus grandes puissances commerciales, hein, donc ceux qui détenaient Nestlé, etc. Donc c'était une grande orgie. Mais notre moyenne de tournée, c'était 15 dates, ce qui était déjà, on peut considérer très bien pour un spectacle donc avec du nom, mais je vais dire la vérité, moi, 15 dates, je bouffe pas, quoi. Je bouffe pas, je veux dire. Et j'ai 12 personnes avec moi qui ne vont pas bouffer avec 15 dates. Parce que, voilà. Et j'avoue que sur cette création-là, donc j'en ai fait deux en plus, histoire de me dire, il y en a peut-être un qui va bien tourner. Mais il y a eu cette chose-là. Et pendant la création, donc, au début, toujours on se dit, on fait ce qu'on veut, allez-y, hein, open bar. Et à chaque fois, je dis, ah putain, ça c'est génial, ça c'est 20 dates en moins. Ah putain, ça c'est super, 18 dates en moins. Je vous assure, c'était vrai. Je dis, ah putain, le coup de la pipe, c'était génial. Hein, mais on fait ça, on a 0 date. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis, hey, fuck you? Je vais faire mon Pavlata numéro 8, etc. Et je me retrouve avec trois dates. Ouais, ok, pourquoi pas. Mais bon, qu'est-ce que je fais après le reste de l'année? Donc du coup, voilà. Donc je me suis retrouvé dans une espèce de situation. On s'est retrouvé avec les copains, évidemment. Dans cette situation, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup, voilà, on a fait un garden de lissage. Et encore, il y a des gens qui me disent, ouais, dis donc, vous y allez. Je fais un boum. Là, on dit, ah quoi, des coups de feu? Tu es fou Il y a des bourgeois qui bouffent de la merde! Moins de 10 ans. Déconseillé. Alors que c'est un spectacle enfantin.
On va compartimenter. Dans les exemples que tu donnes, tu parles toujours de la cour du pape. Le spectacle dont tu parles ici, au niveau du pays des Ria, c'est à comment ça, à Redéné. Moi, j'avoue, nous avouons, au niveau du fourneau, qu'on a fait exprès de présenter ce spectacle, puisque c'est un monsieur qui, politiquement, n'est pas très socialiste. Et la première fois qu'avec donc on a été avec Françoise Nijen, qui est là, directrice de la culture, et donc Michel et Caro, qu'on a rencontré ce maire, il nous a pour parler des RIA, les RIA dont parlait Jacques, il nous a tous, il est pas là le maire, ou, mais ce n'est pas pour le provoquer, c'est dommage, il peut pas peut-être, parce qu'on en a parlé. Il nous a tout de suite dit. Il n'a même pas laissé là-bas, hein, expliquer le projet. Il a dit combien ça coûte. Et donc, on a eu le bon réflexe de ne parler dans cette première réunion que d'argent. Non, non, mais vous rigolez. Mais il ne faut pas. Hein, là aussi, comme dit un Paul, on savait ce qu'on voulait. On n'a parlé que d'argent. Alors, bon, dans notre équipe, c'est plutôt pas moi qui fais ça. On se partage bien le boulot, mais les tableaux, Excel, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce métier-là? Qu'est-ce que c'est que ce technicien? Venez nous voir là à Quatre-Care. Il est venu, ce monsieur, après ce maire. Hein? 2 ans après, il est venu et il a regardé ce que c'était que hein, le boulot qu'il y a pour convoquer, pour provoquer une rencontre entre artistes et habitants. Arrête de dire spectateur. Et moi, j'arrêterai pas de te le dire. Donc, hein, c'est entre artistes et habitants. D'ailleurs, il y a art et culture, c'est toujours le même truc, mais ce n'est pas l'objet. Donc, voilà. Alors, on n'a parlé que d'argent. Et puis, avec le temps, et quand il sait, parce qu'il y avait un rituel, il fallait aller dans cette commune. On a vu ton projet, même écrit sans le voir, ça parlait exactement de ça. On s'est retrouvés un vendredi matin, donc c'était il y a 2 ans, sur vraiment dans ce bourg qui était devenu théâtre. Et donc, et tous les, enfin, les habitants étaient là. Et à un moment, le spectacle commence. Bon, malicieux, nous sommes des gens malicieux. Derrière notre malice, il y a une énorme détermination. Il y a des artistes et il y a des passeurs. Nous sommes des gens, sans parler militants, nous sommes engagés. Nous faisons, nous, passeurs, de la politique. Nous parlons de la politique. Donc, les élus sont toujours associés à la politique, bien sûr. Nous, on le fait. C'est pour ça qu'on est encore vivants aujourd'hui. Et donc, bon, avec la malice qui nous... Donc, on a bien mis ce spectacle dans la commune, que si on avait demandé qui veut ce spectacle, il y a quelques élus ici qui auraient levé la main tout de suite et qui avaient déjà vu « Donnez-vous, hein, donnez-moi votre argent hein, » à Moëlan-sur-Mer, à l'époque, à Carfagny. Et donc, alors, avec la malice... le maire de Redéné. Bon, tout le monde commence à rigoler et tout. Et je lui fais le coude et j'ai dit, ben dis donc, monsieur le maire, c'est comme ça que vous jetez votre argent, parce qu'il y a une scène où les billets volent. Vous jetez votre argent par la fenêtre ici à Redéné. Il me regarde, il dit, non, c'est pas mon argent, c'est celui de la communauté.
On a dû le convaincre d'une certaine façon, parce qu'il a voté le budget des fourneaux avec tout le monde cette année. Donc, avec l'augmentation de... On est passé de 230 000 à 260 000 euros cette année, donc ce qui n'est pas négligeable. Et il a voté. Jacques... Enfin, de toute façon, c'était l'unanimité. Mais...
Ok, merci à tous. Eh bien, écoutez, les débats sont ouverts. Donc, qui veut intervenir sur n'importe quoi, pardon ? Non, sur ce que les gens ont dit avant, pardon.
On pourrait parler de la bouffe, par exemple, de ce midi. Les carottes étaient...
C'est un petit peu compliqué ce que tu abordes aussi, Claude, par rapport à... On a mis moins de 10 ans et on n'aurait pas dû faire ça, parce que justement, dans les arts de la rue, on s'adresse à tout le monde. Les gens ont un programme, ne le lisent pas forcément. Les artistes ne créent pas forcément des choses pour les petites cervelles, des fois. Sauf que les petites cervelles, elles sont devant, des fois sans surveillance, et que les enfants peuvent entendre beaucoup de choses, mais ont parfois besoin d'accompagnement pour ça. Tout le temps. Voilà. Ils ont tout le temps besoin d'accompagnement pour ça. Donc il arrive aussi que les artistes de rue s'autocensurent par rapport à ça, par rapport au fait que les spectateurs ne sont pas toujours avertis. J'avais aussi une tentative d'explication qui n'est pas du tout une justification, c'est que le milieu culturel effectivement paraît un peu mou actuellement. C'est plus facile d'avoir un passe-quoi devant soi et d'être hargneux et d'avoir un ennemi clairement identifié. Actuellement, on est dans une période où on ne sait plus trop comment en ce positionnement on jouerait aussi contre nous, qu'est-ce qui va arriver derrière, est-ce que ce sera pire. Donc il me semble aussi qu'il y a un contexte en ce moment qui nous met assez mal à l'aise et qui nous rend peut-être affaiblis. Voilà. Et dernière chose, là je parle plus du côté d'accompagnement de projets artistiques. C'est vrai que moi j'ai entendu des choses sur un artiste que j'accompagne d'un spectacle où présenté à Avignon, grand succès presse, public, beaucoup de programmateurs qui me disent « j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré, c'est son meilleur spectacle, mais par contre je ne vais pas pouvoir le programmer chez moi, ça ne passera pas auprès de mes élus et ça ne passera pas auprès de mon public ». Alors déjà, comment c'est grave de se dire que déjà on renonce comme ça d'emblée à discuter avec ses élus de sa programmation, de la défendre, de la justifier, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça. Je pense que les élus peuvent être tout à fait ouverts et en tout cas, il y a un dialogue qui est possible. Et là, on a l'impression que d'emblée, le sujet, il est relégué, il est posé à côté. Et puis, qui connaît comme ça son public ? Mais alors, le public, c'est une entité unie qui a un avis. C'est quand même très, très étonnant. En tout cas, à l'endroit où je suis, c'est un discours que j'entends très souvent et qui me pose question. Voilà.
Ça marche.
Juste sur, sur on n'a pas d'ennemis, moi j'en vois plein des ennemis. Hein. J'en vois plein par rapport à notre société. Enfin, il y a plein d'ennemis.
Donc, si vous pouvez vous présenter.
Alors, moi, je suis Erwan Bahanan. Alors, je suis aussi élu communautaire. Ma profession, c'est photographe et je fabrique des images. Donc, je suis un peu entre les deux, puisque je travaille pour des compagnies et je fais de la vidéo dans des spectacles. Enfin, projeté dans les spectacles. Et je suis un élu de Quimperlé, mais je suis natif de Redéné. Et mon père a été le maire de Redéné avant Jeannot Lomnec. Donc, tout d'un coup, je me suis dit, oh là là, ça va pas, là.
Tu es comme le maire, tu as voté le...
Ah oui, non, mais moi, j'ai fait un plaidoyer, Jacques, pour le festival. Enfin, je crois que, d'ailleurs, Jeannot, il a voté grâce à moi. Enfin, parce que j'ai de l'influence sur lui, un petit peu. Non, plaisanterie mise à part, moi, je vois des ennemis, je les vois, sont peut-être pas politiques. C'est vrai que, voilà, pour le monde de la culture, qui est souvent plutôt à gauche que à droite, bien qu'il y ait des gens de culture à droite, ça arrive. C'est vrai que c'est parfois plus facile de taper sur Pasqua que de taper sur Filippetti ou sur Fleur Pellerin. Mais il y a d'autres ennemis. Moi, j'en vois plein d'autres ennemis. Et je pense... justement que le monde de la culture doit arrêter de penser aux élus. Les élus, moi, c'est un des reproches qu'on pourrait faire parfois. Qu'est-ce que vient faire un élu dans un festival, à la limite ? Enfin, c'est pas pour toi, Jacques, hein, tu fais ça bien. Hein. Non, mais pourquoi un élu, pourquoi c'est la deuxième personne qui parle après l'universitaire brillant ? On a dit qu'il ne faisait pas d'autocensure, donc je pose la question. Les élus prennent parfois trop de place. Les élus sont là, effectivement, ils doivent avoir l'intuition de faire les choses, mais après, ils doivent un peu s'effacer, parfois. Voilà. Donc, voilà. Sur l'autocensure, moi, je vois qu'il y a deux choses. Il y a la censure, la censure qui est dictée par la loi du marché, par l'homme politique ou la femme politique, par le système. Et puis, il y a l'autocensure, ce que vous avez qualifié d'autocensure, votre réaction sur l'après-Charlie et sur votre spectacle avec des armes à feu. Moi, je connais bien, effectivement, rue de Charonne, on est tout près. Bon, ce n'est pas de l'autocensure, c'est de la responsabilité, à un moment donné. Je pense qu'il faut... l'autocensure est parfois de la responsabilité. On est artiste, sortir... en plus, ça ressemble un peu à une Kalachnikov, votre truc, là. Effectivement, ce n'est peut-être pas le moment. Mais le faire ici, c'était très bien. Voilà. Donc c'est... Ouais. Ouais. Et puis voilà. Moi, juste pour conclure mon propos, c'est ça la question, c'est que l'artiste ne doit pas s'auto-censurer, jamais. L'artiste doit être responsable à certains moments.
Erwan, j'aimerais bien une chose parce que ça fait le faux trois fois qu'il dit il y a des ennemis, des noms.
Je vais fâcher certains. Hein. Je vais fâcher certains ici, d'autres personnes qui, par ailleurs, j'apprécie. Pour moi, la grande distribution est un ennemi. Voilà. Tu veux plusieurs noms ? Non, mais je n'ai pas de nom à donner, je t'en donne un. C'est notre système. Moi, je vois dans notre système aujourd'hui des dysfonctionnements énormes. Je vois notre rapport à la nourriture être complètement dysfonctionnel. Voilà, bon, c'est là-dessus que je travaille en ce moment, sur les sujets. On est en train de produire un spectacle sur l'éthique animale avec une compagnie à Lausanne. Et je découvre, voilà, donc, voilà, ça, c'est un ennemi. C'est pas nécessairement. C'est vrai que c'est c'est un ennemi un peu plus invisible que Charles Pasqua. Mais... D'ailleurs, je n'ai pas compris non plus pourquoi il y a eu tant d'éloges à la mort de Charles Pasqua. C'est un détail.
Moi, je vais intervenir. Je m'appelle Patrice. Je suis directeur d'un centre national des arts de la rue à Villeurbanne. D'ailleurs, il faudra qu'on se parle parce que c'est assez bizarre qu'on ne se soit jamais croisés.
Pourtant, je suis venu.
Bah ouais, quand même.
J'interviens
pour rebondir aussi un petit peu peut-être sur notre part, puisqu'on a parlé des artistes, on parle des élus, on parle des passeurs, et je vais prendre la parole comme invité, non pas comme organisateur de l'événement, hein, Michel et Claude. Effectivement, la culture est un combat, je crois qu'elle est de tous les jours. Moi, je suis sur un territoire où la culture a toujours été la priorité de la ville. Donc, bien effectivement, ça m'empêche même parfois dans nos débats internes, centres nationaux des arts de la rue, quand on se réunit les CNAR, ou qu'on se réunit autour de la FEDE, d'être la grande gueule de service, parce que j'ai toujours un peu cette parano d'être un enfant gâté. Néanmoins, le combat, il est quotidien. Et aujourd'hui, ben, je parlerai de nos professions. Je n'ai pas envie de parler du théâtre, parce que ce n'est pas mon domaine de compétence. Je suis un spectateur. Quand ça me plaît, j'y vais. Et moi, ça fait 20 ans que je suis à l'extérieur, et aujourd'hui c'est bien. Mercredi c'était moins bien. Et putain, ça caillait sur le festival, la vache, à midi là. Mais là aujourd'hui on est bien. C'est aussi pour ça qu'on est là. Et de dire que ce combat à l'extérieur, nous on le vit de plein fouet actuellement. Et qu'on est forcément, moi j'ai besoin des élus. Parce que nous sommes en résistance par rapport à un populisme dans des villes. Je cite un exemple que j'ai vécu l'an dernier, il y a 2 ans, je crois que certains l'ont vécu, une tentative d'un spectacle de Didier qui est avec ses amis du Royal de Luxe sur quelque chose d'assez violent qui dure une demi-heure. La violence est déchaînée, mais déchaînée, ça n'arrête pas du début à la fin. Des coups de feu, comme on disait, le corps qui saigne, 2 amoureux qui meurent, les bagnoles, etc. Et à la fin, le type renaît à la vie et il sort d'un tas de terre, d'une brouette, et il est nu. Et nous avons eu des plaintes sur la nudité parce qu'un zizi est dans la rue. J'ai donc invité très rapidement Illotopie et de revenir avec les gens de couleur, qu'on reprenne conscience de ce qu'est le corps dans l'espace public. Et aujourd'hui, ces attaques, elles sont permanentes. Et moi, j'ai des élus qui défendent cette liberté de création. Et tout seul, ce serait extrêmement compliqué. Si je n'avais pas des élus avec moi, je ne fais pas le faillot par rapport à ça. Je parle de collaboration. La troisième chose, et qu'on parle de censure et d'autocensure, c'est aujourd'hui la législation sécuritaire dans l'espace public, et notamment de l'État. Hein, puisqu'aujourd'hui, je pense qu'ici, nous sommes un peu dans la même situation. Je ne connais pas votre situation, je ne pourrais pas en parler. Mais nous, à Villeurbanne, nous n'avons même plus de commission départementale, parce que de toute façon, le maire prendra la dernière décision contre l'avis départemental. Et vous savez qu'un maire a le droit de le faire. Seulement s'il y a une merde, il va en tôle. Donc aujourd'hui, ce qui est le parapluie jusque dans toutes les chaînes de responsabilité, fait qu'aujourd'hui, c'est un courage politique, également de cette expression. Donc elle dépasse, je parlais donc de ces nouvelles morales qui font peur, mais aussi quelque chose d'extrêmement, caché, qui n'est pas net, et qui est là et qui est présent. Le mobilier urbain qui nous empêche de nous installer dans les villes. De plus en plus, les urbanistes ont fait des catastrophes par rapport aux villes. On le dit, parce qu'on n'en parle pas de ça. Mais nous sommes très conscients de ça. L'AMNACEP s'est créé, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est des détails techniques, moi, mais on a appris qu'on allait avoir des résultats. Nous, on les attend. Ça fait 2 ans qu'on est en train de parler autour de ça, qu'on parle avec des architectes, des urbanistes, qu'on parle de la ville et de la rue. Aujourd'hui, ces champs-là sont menacés. Moi, je le dis. Ah, tu m'as fait flipper tout à l'heure. Hein. Moi, je suis comme Alexandre. Hein. J'en ai pris une claque. Là, c'est bon. Hein. Je ne voulais pas boire aujourd'hui. Ce soir, je vais boire une bière. Hein. Ça, je te le dis. Hein. Parce que je ne sais pas de quoi soit une main. Mais en même temps, j'en finirai là-dessus. Je fais part plutôt de mes expériences et de dire que oui, le combat, je n'ai pas connu ça depuis 20 ans. Et malgré ce qu'on pense, le combat est permanent. Et il est par voie pervers parce qu'il arrive où on ne l'attend pas. Et quand on tombe sur des gens qui, comme tu disais, parce que nous, les souffleurs, on a eu l'autorisation de le faire. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Un moment d'inattention, 3 camions de pompiers, 5 bagnoles de flics qui voulaient m'embarquer, etc. Parce que le commissaire était parti en vacances, n'avait pas laissé les consignes à l'équipe du week-end. Donc toutes ces choses-là, on voit bien et entendre des arguments terribles, se faire traiter, nous, d'irresponsables. Je veux dire, on est aujourd'hui là-dedans. Et c'est peut-être de notre faute aussi, je l'entends aussi, de ne pas avoir su former les élus, pas discuter assez avec la police, avec le ministère de l'Intérieur, de la particularité de nos métiers. Voilà, j'en arrêterai là, mais je voulais simplement apporter mon expérience à moi et dire que je partage un peu l'avis de quelques personnes. Moi, j'ai peur, je vous le dis.
Bouebbe, par où là ? Pardon. Artiste de rue, comédien, metteur en scène, militant à la Fédé. La fonction sociale de l'art, le rôle politique de la culture, je crois qu'il y a vraiment là une indication, une piste énorme qui a été complètement abandonnée parce qu'il y en a certains qui nous ont donné confiance, qu'on a cru. Je pense à Jack Lang qui a sacralisé le créateur, qui a vraiment mis cette importance de la liberté de créer du créateur. Et dans nos relations, je veux dire aussi équipe artistique, passeur, avec les élus et avec les personnes du public, il y a vraiment du coup quelque chose à construire ensemble et qui ne soit pas universel, forcément univoque. Mais au contraire, il y a plein de fonctions sociales à l'art. Et aujourd'hui, en politique, malgré tout, on en trouve plein des arguments. Il y a les premiers, économiques. Derrière, c'est aussi presque de l'économie. C'est de l'ordre de la concurrence des territoires. On veut un événement attractif pour le rayonnement. On trouve beaucoup, beaucoup d'arguments sur l'innovation, sur et plein de choses qui sont pour moi finalement des annexes, des queues de comète. Je veux dire que certains essayent d'utiliser l'action culturelle à d'autres fins que l'intérêt général que pourrait avoir la culture et l'art. Dire qu'ils l'utilisent, soit, mais qu'on leur abandonne toute décision, toute force de fonction sociale de l'art, surtout pas. Et donc là, on a vraiment un énorme déficit. Il y a un énorme boulot de réarmer collectivement, de faire de l'éducation politique, mais de tous. Parce que du coup, derrière, censure, oui, bon, censure, elle n'existe plus depuis 1906. Ce gros mot censure, mais la censure ou l'auto-censure, mais en fait, c'est une censure collective. C'est cette loi du marché, en effet, ouais. Trouver, si ce n'est que pour commencer, hein, un projet d'écriture sur telle thématique ou sur telle forme, parce que c'est du formatage aussi. En effet, bosser à 18, tu vas faire un dossier, ça va s'arrêter là. Sur la thématique, sur le mode de jeu. Il y a déjà un formatage, en fait, aussi, mais si ce n'est que de la durée du spectacle, pour combien de public et quel tarif. Il y a quelle liberté de créer. C'est dans le bureau de Jean-Christophe Baudet, où je lui faisais part de mes troubles d'artiste, pour plein de raisons différentes. Et tu m'as dit, le seul artiste réellement libre, c'est l'artiste amateur. Tu joues où tu veux, quand tu veux, ce que tu veux, devant qui tu veux, au prix que tu veux. Et dans le milieu de la... Et j'ai trouvé ça dramatique, mais juste. J'ai trouvé ça horrible, mais juste. J'en étais, oui, sur le formatage. L'artiste a injonction à inventer. Et j'ai envie de retourner ça, mais inventons tous et continuons de changer et de donner du sens en allant chercher toujours ailleurs. Aujourd'hui, du coup, en effet, politiquement, il va y avoir deux choix culturels, des fois qui se complètent, l'élitisme et le populisme, grosso modo, et notamment dans les arts de la rue, sur les 300, 500 festivals, on a quand même une sorte de contentement consensuel qu'un spectacle de rue, ça doit plaire à tout le monde. En effet, moi, j'ai entendu beaucoup, beaucoup trop. C'est très bien ce que tu fais, mais pour mon public, tu comprends. Très souvent, c'est sous-entendu pour mon élu. Des fois, on te dit, pour mon élu, en effet, ça ne passera pas. Ouais, c'est... Et du coup, j'ai juste un truc qui m'est revenu en tête tout à l'heure, c'est un peu sur cette fonction sociale. À Aurillac, cette année, j'intervenais en agitation de débat public. Ce n'était pas vraiment un spectacle, pas du tout même. Et du coup, on était en entretien vraiment avec des personnes, des compagnies, des professionnels, du public, des spectateurs. Et une dame, spectatrice de 66 ans, qui, du coup, dans l'entretien, me dit « Oui, vraiment, la fonction sociale d'un festival des arts de la rue, ce qui est vraiment super, c'est la dimension de subversion, la subversivité qui est présente ici. Ah bon ? Mais pourquoi, je lui demande ? C'est quoi qui est bien avec la subversion ?» Et elle me dit « C'est une bonne soupape pour que ça soit calme tout le reste de l'année. » Comme quoi, ça vaut le coup d'aller chercher un petit peu plus loin qu'une phrase un peu universelle de consensus, de ce consentement-là. Quoi.
Merci. Bonjour, je me présente. Je suis Léonore Canales, directrice artistique de la compagnie Petit Pain, de Brest même, et coordinatrice du collectif artistique La Patate Douce. Donc, nous venons de jouer récemment au Festival d'Aurillac dans les off. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier, Olivier, parce que je trouve que tout ce que vous avez dit, qui est très dense, qu'effectivement, il va nous falloir du temps pour revenir sur tous ces différents constats et pistes, mais qui nous aident à replacer les enjeux et les questions que je pense qu'on se pose tous aujourd'hui ici. Donc ça nous a permis, ou en tout cas ça m'a permis à moi, de revenir à des choses qui sont essentielles pour moi. D'abord, je vous remercie du courage de commencer votre... Oui. Même si on est en France, sur un joli arbre, et on est tous très polis et très gentils, il faut quand même du courage pour commencer par dire, je l'ai noté, la bonne conscience. Donc, oui. Donc, il faut faire attention, effectivement, à se donner cette bonne conscience et à se congratuler de nos discours. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi, ça me ramène à une question qui est fondamentale et qui, vous l'avez dit, c'est la question de la place. Donc, la question de la place dans la culture, dans notre société, pour moi, elle est essentielle à se la reposer. C'est des mots qu'on a déjà entendus mille fois. Mais du coup, ça me renvoie à moi, ma place en tant qu'artiste. Je suis en permanence en train de me demander quelle est ma place, quelle est ma place en tant que femme. D'ailleurs, je constate qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont pu parler ou qui ont pris la parole. Donc, quelle est ma place aujourd'hui et comment j'ai, à l'intérieur du système, comment à l'intérieur de ce que nous vivons tous, de ce monde-là que nous avons, que nous écrivons nous, comment j'ai fait et comment, plutôt qu'être contre, hein, je trouve les moyens et les armes pour pouvoir continuer à exprimer avec mes mots et maladroitement. Je ne crois pas qu'il y a les ennemis et nous. Ça veut dire que je ne crois pas qu'il y a les bons et les mauvais. Je crois que les choses sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus difficiles à cerner. Il y a une autre chose qui m'importe et que j'ai envie de partager avec vous, c'est la question de l'intériorisation. Moi, ce matin, je me disais, mais c'est quoi la censure ? C'est quoi pour toi la censure ? Et en fait, je vais commencer à me raconter des toutes petites choses, des rien du tout. Et en fait, la censure pour moi, c'est quand je me dis, effectivement, plutôt que faire un spectacle avec 10 mecs, d'ailleurs, que j'ai très envie de faire un spectacle avec 10 mecs, je veux faire un spectacle solo. D'ailleurs, je veux faire un spectacle solo parce que j'ai envie et que je sens les besoins. Mais quand je commence à me poser des questions parce que je dois répondre à ce qu'on attend de moi ou à ce que les marchés attendent de nous. Pour moi, ça, c'est peut-être pas de la censure, je n'ai pas les mots justes, mais c'est de l'empêchement. Ça veut dire que je me cohorte, je me coupe, je me pose trop de questions qui sont d'ordre mercantile, qui sont d'ordre du sens de ce qui est attendu et pas forcément de ce que moi, en tant qu'artiste, et mon moteur, il me fait vibrer. Si je parle de censure, je vais vous raconter quelque chose. Ne les dites pas forcément ailleurs. Donc, au collectif La Patate Douce, nous avons défendu un espace des paroles. Ça veut dire que c'est un lieu dans lequel on se rencontre, nous tous. Chaque jour, on a posé une question politique et sociale. Un mois en amont du festival, on a su par la part de la direction de l'OFF que cet espace des paroles n'était pas très, que comme ils avaient besoin de mettre en place un spectacle et ils ne trouvaient pas où, je comprends que ce n'est pas simple pour la direction de l'OFF, hein, ils ont dit à 12h30 au collectif La Patate Douce, on vous met telle compagnie. Nous avons notre espace des paroles. Alors, on les a dit, mais non, ce n'est pas possible. Ils ont dit, on ne vous demande pas quel est votre avis, c'est comme ça. Alors, après avoir discuté et de rappeler quels étaient les projets du collectif et pourquoi cet espace-là était important pour nous, cet espace-là a été gardé et ça a été ça a tout à fait réussi. Il n'y avait pas 80 personnes et ils ont tout à fait compris au sein de la direction qu'il était effectivement pertinent de le faire. Voilà, j'ai fini par une dernière chose que je relève de la part de monsieur le maire que j'avais déjà repéré l'année dernière. Non, mais c'est vrai parce que j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit déjà l'année dernière. Je suis très touchée par vos mots parce que je les trouve très justes et ça me touche vraiment profondément. Voilà. Donc moi, ce que je retiens de ce que vous dites, vous m'écoutez ? Non, ce qui me touche beaucoup de ce que vous dites, c'est en tout cas ce que j'en prends, c'est les mots audace. Et je crois qu'aujourd'hui, un des mots qui n'est pas très qui doit revenir dans nos bouches et dans nos corps, c'est l'audace d'inventer, je n'ai pas des moyens, mais je trouve la solution, hein, Claude, tu te rappelles quand on n'avait pas trouvé, tu trouves la solution, et que ces mots-là doivent être, à mon avis, un moteur dans notre labeur au jour le jour. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop parlé, d'habitude je parle le trop. Mais...
Les filles n'ont pas beaucoup parlé. Isabelle Nivet, je suis journaliste culturelle. Moi, je voudrais juste une toute petite chose, c'est parler de la médiation et de la communication, puisque ça fait partie de mon travail aussi. Mais je pense qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas et qu'on a beaucoup entendu parler de la peur des programmateurs, la peur des élus, la peur des spectateurs. Et qu'en parlant beaucoup de culture... auprès des élus, je ne sais pas de quelle manière, mais en parlant, on aura peut-être un petit peu moins peur. Et en ayant un petit peu moins peur, on aura peut-être tendance à dire, le truc débile que je voulais mettre et que je ne mets pas parce que ça va me coûter 10 dates, là, je le mets parce que je sais qu'il va être compris. Voilà.
Oui. Oui, on m'entend. Donc Jean-Christophe Bedel, je suis le conseiller pour le théâtre Le Cirque des Arts de la Rue à la Drac de Bretagne. Et il y a un truc, Boueb, sur lequel je suis d'accord avec toi, mais sauf que je n'emploie pas les mêmes mots. C'est-à-dire que moi, je pense que l'art n'a aucune fonction sociale et qu'il ne faut surtout pas que l'art ait une fonction sociale. Parce que moi, je pense que l'art... Mais je sais que tu es d'accord avec moi, mais parce qu'on ne va pas le dire de la même manière. L'art, pour moi, ça a une fonction, elle est très claire, très simple. C'est une fonction antisociale. Et pas du tout une fonction sociale. Et que pourquoi, à un moment donné, il y a des politiques publiques, ou il devrait y avoir des politiques publiques pour défendre l'art, comme d'ailleurs la recherche universitaire, et vous en avez parlé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, que les collectivités publiques pensent qu'il est de leur responsabilité de financer des espaces critiques de la société telle qu'elle est. Et c'est là que c'est compliqué dans le débat dans lequel on est, quand toi tu parles d'artistes et Claude il parle d'habitants. Et toi tu parles de spectateurs. Quand on est artiste, on parle de spectateurs. Quand on est programmateur, on est bien obligé de parler d'habitants et de population. Ok. Mais la question, c'est, effectivement, dans le contexte dans lequel on est, où il y a des réactions critiques de spectateurs, vous en avez parlé à Villeurbanne, ce qui s'est passé à Angers ou je ne sais plus quoi, ou un spectacle qui, il y a 20 ans, il n'y avait aucune critique, là, il a failli être interdit. Ça témoigne de quoi? Mais ça témoigne tout simplement de ce que vous savez, du résultat de chaque élection et d'une certaine lepénisation des esprits. Parce que aujourd'hui, il y a une partie de la population qui demande l'interdiction de spectacles. C'est même plus les élus. Enfin, il faut bien comprendre à quel endroit on est là aujourd'hui. Et effectivement, il ne m'appartient pas, moi, d'analyser ce qu'est la société, quelles sont les mobilisations du corps social, etc., etc. Mais je crois que malheureusement, les résultats de chaque élection nous indiquent dans quel sens ça va. Et y compris, je pense que tous autant qu'on est, petit à petit, ça nous gagne aussi ces choses-là, puisqu'on parle de censure, d'auto-censure. Et voilà. Moi, je ne sais pas s'il fallait ou pas faire le spectacle dans le 11e arrondissement après. Je ne sais pas, puisque de toute façon, ce n'est pas des armes. Vous avez employé le mot armes, mais ce n'est pas des armes, c'est des fausses armes, c'est des jouets. Mais je ne sais pas s'il fallait le faire ou non. Après, c'est une question de responsabilité individuelle. Ce que je veux simplement dire, c'est que par contre, au moment de ces événements-là, il était difficile de pouvoir dire « je ne suis pas Charlie ». Parce que, par exemple, et vous en avez parlé, monsieur, lorsqu'il y a eu les défilés des chefs d'État où un grand nombre de dictateurs de la planète ont défilé avec notre président de la République pour dire « je suis Charlie », moi, j'étais un petit peu choqué quand même de voir ça. Même si, sur le fond, je suis Charlie. Mais je comprendrais très bien que des gens puissent dire « je ne suis pas Charlie parce que je n'ai pas envie de participer à cette récupération-là ». Bon, peu importe. Mais moi, il y a une chose qui me touche, c'est la question de l'autocensure dont tu parlais. Parce qu'effectivement, le spectacle que j'ai vu ce matin, il est très, très lisse par rapport au précédent. Et je pense qu'il faut refaire des spectacles comme le précédent et moins lisse, ou peut-être que tu peux redonner plus d'aspérité à ce que j'ai vu ce matin. Je le souhaiterais en tant que spectateur. Voilà. Et il y a une chose, par contre, où je suis complètement d'accord. C'est sur la question de l'économie du spectacle qui se rétracte, des budgets des compagnies, de la question de la vente, la question des budgets artistiques disponibles pour les organisateurs qui se réduisent et qui font qu'il faut se battre aujourd'hui pour pouvoir faire des spectacles avec des distributions importantes, parce que si on ne le fait pas, dans 3 ans, il n'y aura plus que des solos ou des duos. Et effectivement, ça, c'est une question de censure. Parce que, bien évidemment, quand on est 8 ou 10 interprètes, on ne raconte pas la même chose du monde que quand on est tout seul ou un duo. Ce sont des choix artistiques, parce que la forme, elle dit autant que le fond en art. Sinon, il n'y aurait pas eu les surréalistes, par exemple. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et donc, indiquer, mais plusieurs personnes ici le savent, parce que commence de leur dire depuis quelques mois, parce que nous, à la DRAC, là, en tout cas, sur le théâtre, les arts de la rue, le cirque, on est en train de se poser la question de ne plus aider les solos et de n'aider plutôt que des projets où il y aura des distributions importantes, parce qu'à un moment donné, il faut aussi se positionner par rapport à l'évolution de ce marché. Enfin, c'est une question. Voilà, j'en ai fini.
Bonjour, je suis Antoine Raimondi de la Débordante Compagnie. Moi, il y a un petit aspect qui n'a pas été abordé, que j'aurais souhaité soulever, qui est l'autocensure dans l'écriture même de nos projets. Si demain matin, j'ai envie de faire un spectacle sur, je sais pas, la titrisation de la dette grecque, par exemple, je vais lire des bouquins, me renseigner, m'informer sur la manière dont ça fonctionne, je vais collecter de la matière, et puis petit à petit, dans l'écriture de mon spectacle, je vais dégager un certain nombre de choses parce que c'est trop technique, que ça ne laisse pas suffisamment place au poétique, et puis que j'ai l'impression, enfin, c'est généralement quelque chose qu'on se dit, que voilà, un spectacle, c'est avant tout un geste poétique, c'est quelque chose qui doit suggérer des choses, etc. Et donc, petit à petit, je vais me retrouver avec un espèce de spectacle qui était militant à la base, qui va se retrouver vidé de son contenu, comme s'il y avait une espèce de bataille entre la place que doit occuper le discours politique dans un spectacle et la place qui doit être laissée à l'espace poétique. Et donc moi, petit à petit, je vois des spectacles comme ça qui auraient pu aller toucher à un endroit qui m'aurait intéressé, qui m'aurait donné à penser le soir en rentrant à la maison, et qui finalement se contentent de dessiner un croquis assez léger d'une situation sur laquelle j'aurais aimé pouvoir avancer, sur laquelle j'aurais aimé pouvoir apprendre. Et je me rends compte qu'il y a eu des formes artistiques qui sont peut-être un petit peu moins à la mode aujourd'hui, mais qui ont été le théâtre d'agit-prop, le théâtre d'éducation populaire, le théâtre documentaire, etc., donc j'ai l'impression qu'il serait intéressant de retourner voir, de tenter de les déboussiérer si besoin, en tout cas de tenter de les réinvestir pour recommencer à faire des spectacles qui disent et qui permettent de penser, qui permettent de provoquer du discours politique. Nous, avec la Débordante Compagnie, enfin sur ce spectacle, en tout cas ce qui m'est dû, on travaille sur l'écologie radicale. Et c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Là, je vais faire un pont avec ce que tu disais sur les ennemis. Puisque y a une phrase, il me semble que c'est le fondateur d'Earth First, donc pré-Greenpeace, organisation radicale écologiste américaine des années 70, un truc comme ça. Et ils disent dans l'ouverture de leur manifeste, on a passé vachement de temps à essayer d'identifier l'ennemi et on s'est rendu compte que l'ennemi, c'était nous. Et donc là, ça nous ramène, et nous, c'est vraiment le problème avec lequel on a essayé de composer dans l'écriture de Ce qui m'est dû, c'est que pour raconter des dérives, des problèmes systémiques, on est obligé de s'intéresser au comportement individuel. Et donc là, ça vient nous gratter dans un endroit qui est très, très, qui est très, très délicat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire « oui, aujourd'hui, les problèmes, c'est Total et c'est Carrefour ». C'est aussi le fait qu'on achète de l'essence chez Total et qu'on aille à Carrefour. Et donc, du coup, ça nous amène dans des endroits où du coup, ça crée du conflit, parfois avec les spectateurs, où on s'est fait reprocher parfois. Enfin, on nous a dit le spectacle est très bien, mais moi, j'ai un public très familial et vous comprenez bien qu'aborder ces questions-là, etc., c'est un petit peu compliqué parce qu'on défend une vision un peu apocalyptique aussi de l'avenir, malheureusement. Et donc j'ai l'impression que c'est des choses auxquelles il faut oser réussir à se frotter à nouveau pour poser ce truc. On a tous conscience que le monde part un petit peu en lambeaux et j'ai l'impression qu'il y a ici quelque chose où, pour le coup, on a une fonction, une parole qu'on devrait assumer pour refabriquer du débat politique, y compris dans la rue et partout où on peut. Voilà.
Moi, je suis... Cécile Pelletier, donc adjointe à la culture à Quimperlé. Donc, en tant qu'élue, je veux juste témoigner de quelques expériences de censure, mais de censure parce qu'on a mis ce mot-là aujourd'hui, en prenant l'exemple aussi d'une censure dite collective et puis d'une censure sécuritaire. C'est parfois aussi difficile d'aller contre le consensus. Et par exemple, cette année, à Quimperlé, on avait décidé d'essayer de proposer autre chose qu'un feu d'artifice pour le 14 juillet. Oh, grande âme nous a pris cette idée. Moi, dans une autre vie, j'ai été programmatrice de festival littéraire, donc j'ai l'habitude d'aimer l'audace puis de m'enthousiasmer. Et du coup, j'ai rencontré le collectif de la Meute de Douarnenez. D'ailleurs, il y a un de ses représentants qui est présent, qui a travaillé sur le projet. On a manqué de temps pour préparer, toute chose est perfectible. La seule chose qui m'a étonnée, sur laquelle je ne m'attendais pas en fait, à des réactions aussi épidermiques, c'était que je ne pensais pas que le feu d'artifice était à ce moment-là sanctuarisé dans notre pays. Et naïvement, certainement, hein, vous le saviez apparemment tous. en fait, ce qui était très étonnant, c'est que ce qu'on nous a reproché, alors je précise quand même beaucoup plus sur les réseaux sociaux qui prennent une importance... presque dommageable, j'ai envie de dire, sur la manière dont on se concentre parfois sur des réactions qui restent finalement d'un petit corpus. Hein. Donc, je pense que dans une grande majorité des gens, ou au moins une moitié, j'ai envie d'espérer, les gens étaient plutôt contents de la surprise, voilà, d'avoir été bousculés, tiens, on n'a pas de feu d'artifice. Après, voilà, esthétiquement parlant, on aime, on n'aime pas. Je crois qu'il n'y a pas de vérité dans l'art, et c'est tout ce qui est intéressant. Par contre, ce qui a été reproché, c'est qu'il y a tout d'un coup eu un rapport qualité-prix. Alors ça m'a complètement anéantie sur le moment, je vous avoue. puisque le but, ça a été de demander combien ça a coûté, de vérifier si du coup, comment ça, est-ce que éventuellement ça aurait pu même coûter plus cher qu'un feu d'artifice, parce que alors là, c'est horrible. Et puis, tout le monde évoquait le retour sur impôt. Donc, le feu d'artifice, sachez-le, c'est un retour sur impôt. Donc, en fait, les gens n'invoquaient que ça, que le fait, c'est avec nos impôts qu'on a payé ça. Donc ça, j'ai trouvé ça terrible parce que du coup, les gens mettaient même est-ce qu'on nous a demandé notre avis et tout ça. J'ai envie de leur dire oui, on vous a demandé votre avis au moment des élections puisqu'a priori, vous avez voté pour une équipe. Alors peut-être pas les gens qui y reprochaient, évidemment. Mais voilà, quand on a le système démocratique local fait qu'effectivement, il y a des élus. Mais voilà, c'était plus ça qui m'a vraiment gênée. C'est tout d'un coup de découvrir qu'on faisait un rapport qualité-prix sur l'art et sur l'audace. Encore une fois, nos choix, je ne dis pas qu'ils étaient les plus parfaits. Moi, en tout cas, j'ai pris plaisir à bosser avec le collectif et à s'imaginer qu'effectivement, j'ai entendu, il y avait plein de choses qui pouvaient être mieux. Mais voilà, je ne m'attendais pas à ce que ce soit rapporté avec ce populisme sur l'impôt qui fait que le maire a été répondre sur les réseaux sociaux et a décidé de quantifier, de donner le prix. Parce que ça reste effectivement des fonds publics. Donc voilà, et a expliqué que oui, c'était à la hauteur, on avait gardé le même budget, que c'était à la hauteur du feu d'artifice, ce qui a beaucoup choqué certains, peut-être rassuré d'autres, j'en sais rien. Mais voilà, ça c'était très étonnant en tant qu'élue, pour le coup, et en tant que citoyenne, d'avoir même entendu des gens qui nous demandaient « Mais attendez, excusez-moi, quel rapport avec la fête nationale le 14 juillet ?» Alors que dans le travail de contenu qu'on a fait avec le collectif de la Meute, le cahier des charges était égalité, fraternité, solidarité avec les associations. Et le but était, alors bien fait ou mal fait, mais en tout cas, était de raconter l'ouverture sur le monde de Quimperlé, d'évoquer différents pays. Les gendarmes nous ont rapporté que à l'arrière du spectacle, certains trouvaient ça trop ethnique. Donc effectivement, on entend aussi cette, alors, je ne sais pas si je peux parler de l'eupénisation, mais d'une espèce d'intolérance ordinaire et de haine ordinaire qui parfois se distille dans nos esprits. Moi, j'étais candide, j'avais juste envie de remettre un peu de fond dans cette fête où justement je trouvais que c'était juste que parfois que du feu d'artifice. Il y en a plein autour de notre territoire, donc les gens pouvaient en voir plein. Et j'avais envie à Quimperlé, après les événements de janvier, effectivement, de vouloir remettre un peu de citoyenneté, de rappeler que ces valeurs-là, à la Bastille, elles ont aussi évolué dans nos sociétés et que c'était de rappeler qu'autour de nous aussi, ces mêmes questions de 1789 se posaient encore en 2015. Donc, et le côté censure sécuritaire, je l'ai eu aussi parce que dans cet enthousiasme de vouloir créer cet événement, je me suis retrouvée aussi face à des exigences de sécurité dues aux obligations des services, de la ville, des gendarmes, de la police municipale, de tout ça. On a été même trop. Et je pense que la presse, pour le coup, que ce soit les deux médias, le Télégram et Ouest-France, où on fait une super analyse critique de ce qui s'était passé, c'est-à-dire en n'étant pas totalement de notre côté. Hein, ils ont bien levé les choses qui ne sont pas allées, mais ils ont relevé aussi ce côté tout sécuritaire qui fait qu'à force de vouloir sécuriser, limite, c'était super dur d'arriver jusqu'à notre spectacle qui était donné en Basse-Ville, ce qui était vraiment dommage. Donc voilà, j'ai entendu ça, mais j'ai été surprise aussi qu'au niveau de nos services, de nos fonctionnements, on soit à un tel point où dès qu'on organise quelque chose, il faut tout barriérer, faut bloquer la circulation. Enfin voilà, c'est pas au fourneau que je vais apprendre ça. Justement, je trouve que c'est vachement plus light que nous, ce qu'on a pu avoir. Donc va falloir qu'on en prenne de la graine une prochaine fois. Et le deuxième témoignage que j'ai vu que Claude avait réagi tout à l'heure, c'est par rapport aussi à l'urbanisme. Moi, ça m'avait servi les rencontres professionnelles de l'année dernière, puisqu'il avait été évoqué justement la place du spectacle vivant dans l'espace public. Et vous aviez évoqué le fait que c'était bizarre à chaque fois qu'on faisait des commissions culture ou qu'on voulait organiser un spectacle, finalement, la voirie, l'urbanisme, ces services-là n'étaient jamais présents. Comme si tout d'un coup, il y avait un espèce de laboratoire qui se mettait en place en dehors de la réalité et du terrain quand on faisait du spectacle vivant. Et donc, j'ai entendu cette chose-là, on en a discuté avec le maire et on s'est dit, c'est vrai qu'à Quimperlé, on venait d'avoir un grand parking Isole Sainte-Croix que vous ne verrez pas grand, puisqu'actuellement, il est totalement investi par les travaux pour lutter contre les inondations. Donc, on a effectivement un espace public qui s'est réduit comme peau de chagrin pour cette édition, mais le fourneau a pris le pari de s'adapter aussi à ses contingences et à faire quand même un spectacle. Mais du coup, voilà, il y avait un espace public qui avait été pensé en termes urbanistiques au moment où il a été conçu, sans se poser la question de la place du théâtre de rue, des arts de la rue. Et voilà, nous, on a mis en place une étude urbaine de Basseville. On a demandé au fourneau de travailler avec nous sur cette réflexion.
On va bientôt faire passer la parole parce qu'il nous reste très peu de temps.
Oui, oui. Mais bon, voilà, c'était juste sur l'espace, l'urbanisme, voilà, qui est à mon avis un aspect important aussi à prendre en compte pour laisser une place au spectacle vivant dans les villes. Voilà, pardon.
Si je peux prendre deux petites secondes la parole. Clotilde Guérineau, je représente la compagnie Version 14 pour un spectacle qui est en création, L'œil de Polyphème. Et une petite anecdote, tout à l'heure j'étais sur un spectacle et j'interrogeais un habitant. Je suis très curieuse et j'aime bien discuter avec les gens et je lui demandais... pourquoi il était là, depuis combien de temps, ce qui l'intéressait dans le spectacle vivant. Et justement, il me disait, écoutez, moi, ça fait 3 ans, 4 ans que je viens au RIA, et ce que j'aime, c'est quand les spectacles amènent de la provocation, qu'il y a de la provocation, ça me plaît. Je lui dis, mais c'est quand même dangereux, quand même, qu'on parle de choses un peu... c'est un peu blasphème tout ça. Moi-même, je le provoque un peu. Non. Moi, je trouve que quand il y a de la provocation, ça veut dire que nous, public, on nous fait confiance. Ça veut dire qu'on ne nous prend pas pour des cons. Et vraiment, ça m'a marqué, parce que même moi, je le pense en tant que public. Et c'est ce qu'il m'a dit. Au RIA, c'est ce qui me plaît, c'est qu'on nous fait confiance en tant que public. C'est une petite anecdote, mais je voulais quand même le dire, parce que dans tout ce que l'on a évoqué, derrière, c'est aussi nous-mêmes, c'est le public. Et en tant qu'artistes, qui avons la chance de pouvoir nous exprimer, on est quand même aussi ceux qui donnent, comment dire, qui permettent à ceux qui ne le savent pas de ressentir qu'ils ne sont pas les seuls à penser la même chose.
Merci. Il est 16h34, on a 2 minutes de retard. On peut prendre encore peut-être une courte pour finir, là-bas. Et après, évidemment, on pourrait essayer de discuter entre nous, mais il y a des spectacles qui enchaînent à 17h17. Je vous le dis tout de suite, comme ça, ceux qui veulent y aller peuvent. Les spectacles sont à Banalec, il y a Jean-Louis Levalégan à la Chapelle Saint-Cadeau et à l'Ocunolé. Economic Strip de Hannibal et ses éléphants à 17h17. Mais prenons encore une ou deux rapides. Le micro est là, juste devant.
Oui, bonjour. Je suis Thomas Lawap, coordinateur à la Fédération nationale des arts de la rue. Et je voulais revenir justement sur la censure et la manière de réagir collectivement à ces actes qui sont de plus en plus nombreux. On a de nombreux retours. Il y a les souffleurs à Paris, il y a aussi... le spectacle Boudin et chansons à Tourcoing qui a été annulé parce qu'il y avait le mot boudin dans le titre du spectacle et ça risquait de faire peur à certaines franges de la population. Donc on se retrouve avec des élus qui ne respectent plus les valeurs républicaines, qui sont normalement des étendards de ces valeurs. Pour réagir, on communique, on fait des communiqués bien sûr, mais on s'est aussi désormais, avec l'accord des adhérents, allié à la Ligue des droits de l'homme pour pouvoir, au sein de l'Observatoire de la liberté de création. Une des seules structures nationales qui réagit, qui a la légitimité de le faire avec tout un panel de syndicats, de professionnels de la culture, aussi bien du cinéma, de la marionnette, des arts plastiques, de l'art contemporain. Et ça permet en fait d'avoir une véritable visibilité, même si ce n'est pas encore très visible, parce qu'il faudrait que tout le monde se mobilise aussi sur le terrain, aller voir les élus, convaincre, évoquer la censure, mais aussi la liberté d'expression plus généralement dans l'espace public. On a parlé tout à l'heure notamment de l'urbanisme. Les décisions qui sont prises par des urbanistes et validées par les élus, ce n'est pas forcément à l'écoute et ce n'est pas forcément un fonctionnement totalement démocratique. Et c'est pour ça que nous, en tant que professionnels des arts de la rue, on se doit aussi d'aller vers ces élus et de participer donc à la réflexion, d'apporter nos éléments. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Pour finir, je voulais vous annoncer la tenue à Rennes le 25 et le 26 novembre prochain de l'Université Buissonnière des Arts de la Rue. C'est un moment de réflexion qui existe depuis 5 ans. On bouge chaque année. Tous les adhérents, les professionnels, plus largement de la culture, des arts de la rue en particulier, mais ça va aussi plus loin, avec comme intervenant Franck Lepage et également Michel Lucas, dans lequel on se reconnaît assez bien. Jean-Philippe Lucas, pardon. Donc ça aura lieu fin novembre à Rennes et on vous y invite tous. Je suis au stand tout à l'heure, je peux discuter avec vous. Voilà.
Merci beaucoup. On va clore là où il y a une dernière intervention et après on libérera tout le monde.
Alors déjà, moi je cherche une place pour aller voir Hannibal et ses éléphants, si quelqu'un fait un aller-retour. Super. Et puis donc Ingrid, je travaille, j'accompagne 7 compagnies Art de la rue et je travaille au sein des accroche-cœurs dans la ville d'Angers. Moi, ça fait 15 ans que j'œuvre dans le milieu des arts de la rue. J'ai été confrontée 2 fois à de la censure depuis 2 ans. D'une part, je travaille avec une compagnie féminine de danse contemporaine dans la rue qui s'appelle le groupe Berthe. Et on devait intervenir il y a 2 ans dans la banlieue de Grenoble avec un spectacle 4 femmes qui investissent une nappe au crochet. Il se trouve qu'on voit leurs culottes et que ce sont des femmes qui portent une parole de femme un peu rock'n'roll. Et en fait, sur les 3 représentations, 2 ont été annulées, puisque l'organisateur, suite à des mouvements dans les réseaux sociaux, ont eu peur d'un lynchage des filles. Et donc, nous n'avons pas pu jouer 2 des 3 représentations. Voilà. Et l'année dernière, on a eu le cas de Cumulus, donc, dont le monsieur de la DRAC a fait écho tout à l'heure, donc avec un spectacle qui s'appelle Les Squams, qui tourne depuis 20 ans et qui, au sein d'un festival qui existe depuis plus de 15 ans, parce que 2 personnes ont élevé un peu la voix avec le Coran dans les mains, le spectacle a été annulé, puis ensuite déplacé à l'intérieur, alors que Les Squams n'avaient jamais connu ce type de situation dans aucun festival. Donc, je pense qu'effectivement, il va falloir qu'on se tienne un peu les coudes entre organisateurs, élus et artistes pour garder une parole forte dans les arts de la rue. Et puis sinon, je suis contente aussi d'entendre que la DRAC va aider des projets importants, parce que moi, quand je défends des projets en général, avant qu'on me demande quel est le contenu du projet, on me demande combien de dates j'ai vendues. Avant, voilà, c'est que pour pouvoir être aidé à la création, il faut déjà avoir vendu son spectacle. Et en note positive, il se trouve que j'accompagne à l'heure actuelle un projet, bon, qui est un solo, hein, qui n'a été quasiment pas du tout aidé, et où l'artiste a décidé d'aller à l'inverse d'un interdit des arts de la rue, qui était de jouer devant un monument aux morts. Il y a 2-3 interdits dans les arts de la rue, notamment les cimetières et les monuments aux morts. Et il a bien fait, puisqu'il tourne beaucoup en ayant joué que 4 fois l'année dernière. Il a plus de 40 dates cette année. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on brave les interdits.